Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les eurodéputés donnent leur feu vert à la réforme du droit d'auteur, un projet soutenu par les artistes et éditeurs de presse et combattu par les géants du net qui pourraient être mis à contribution financièrement. Le Parlement européen entame par ailleurs une procédure contre la Hongrie pour non-respect des valeurs fondamentales de l'Union. En France, Nicole Belloubet a présenté en Conseil des ministres son plan pour les prisons. Il vise à réduire la population carcérale en favorisant les alternatives à la détention. Et puis, à la veille de la présentation du plan pauvreté, nous reviendrons sur une proposition alternative, celle d'un revenu universel. 13 départements veulent l'expérimenter. Les géants du numérique vont-ils être mis à contribution pour mieux rétribuer les créateurs de contenu? La question n'est pas encore tranchée, mais le Parlement européen a voté pour la réforme du droit d'auteur, et ce malgré le lobbying très intense des opposants au texte. On retrouve Ania Vogel au Parlement européen à Strasbourg.
438 voix contre 226 et 39 abstentions. Les clarifications apportées pendant l'été ont visiblement convaincu Marc Joulot du Parti populaire européen.
Lorsque des plateformes diffusent de contenu, elles ne sont pas simplement des simples hébergeurs. Elles doivent obtenir des licences, passer des contrats avec des sociétés d'auteurs, avec des sociétés d'artistes, tout simplement pour qu'ils aient une rémunération qui soit juste et équitable, parce que sans cette nouvelle organisation économique, ce sont des modèles dans le domaine de la culture ou de la presse qui seraient demain menacés.
Mais le vert, Pascal Durand, n'a pas été rassuré. Au contraire, jusqu'au bout, il a alerté sur les dangers du texte.
On renforce deux choses, le pouvoir des gros, y compris les fameux GAFAM, les Google, etc. Et la deuxième chose, qui est, alors là, pour le coup, beaucoup plus grave, c'est qu'on est en train de robotiser, de mettre de l'intelligence artificielle pour filtrer le net, pour faire en sorte que des machines définissent ce qui est la propriété, le droit d'auteur et le copyright.
Les discussions vont maintenant s'engager avec les États membres et la Commission, ce qui pourrait encore prendre plusieurs mois, les trois institutions s'efforçant de les faire aboutir avant les élections européennes de mai prochain.
Autre dossier sensible sur lequel les eurodéputés viennent de se pencher, les violations de la démocratie et des droits de l'homme constatées en Hongrie depuis l'arrivée au pouvoir du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Le Parlement européen demande au Conseil européen d'ouvrir une procédure de sanction contre la Hongrie, considérant que ce pays bafoue les valeurs fondamentales de l'Union. Bonsoir Maria Melkerdi.
Bonsoir.
La résolution a été adoptée par 448 voix contre 197 et 48 abstentions. Elle s'appuie sur l'article 7 du traité de l'Union européenne qui peut donc entraîner des sanctions. Précisément, Mariam, que risque la Hongrie?
Alors en théorie, l'article 7 peut déboucher sur une suspension pour le pays visé de ses droits de vote au Conseil de l'Union européenne. C'est l'arme dite de dissuasion européenne. La procédure n'a été utilisée qu'une seule fois contre la Pologne. C'était en décembre 2017. Elle avait été imaginée à l'origine après l'arrivée de l'extrême droite à Vienne en 2000. L'idée, c'est de pouvoir utiliser cette arme en cas de dérive d'un des États membres de l'UE. Mais ce vote du Parlement n'est qu'une étape. Il permet dans un premier temps de constater qu'il y a, je cite, un risque clair de violation grave pour la Hongrie des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée. Pour que la sanction finale tombe, il faut attendre une deuxième phase dont l'issue sera sans doute favorable à Budapest. Cette deuxième étape, c'est un vote qui doit être non pas à la majorité, mais à l'unanimité. Le pays visé, la Hongrie, est exclu de ce vote, certes, mais a des soutiens de poids au sein de l'Union européenne. Budapest va très certainement bénéficier du veto solidaire de Varsovie pour échapper à la sanction, et vice-versa. D'ailleurs, la procédure enclenchée contre la Pologne n'a pas été plus loin. Le vote du Parlement apparaît donc plus comme symbolique que décisif.
Maria Melkerdi, en Allemagne, les représentants de l'Église catholique se disent accablés et honteux. La conférence épiscopale allemande vient de réagir après la publication d'un rapport révélant que des milliers d'abus sexuels sur mineurs avaient été commis au sein de l'Église et passés sous silence durant des décennies. Les journaux Der Spiegel et Die Zeit indiquent qu'entre 1946 et 2014, au moins 3677 enfants, en majorité de jeunes garçons, avaient été victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé, et les clercs accusés étaient souvent transférés sans que les fidèles ne soient avertis du danger potentiel pour leurs enfants. En Espagne, la ministre de la Santé vient de démissionner. Carmen Montón était en fonction depuis l'arrivée du socialiste Pedro Sánchez en juin. Elle a dû quitter le gouvernement à cause d'une polémique sur les conditions d'obtention de son master de droit public, un diplôme qu'elle aurait obtenu de manière frauduleuse. Affaire suivie à Madrid par Marie-Hélène Ballesteros.
La polémique sur les diplômes universitaires douteux ne désenfle pas en Espagne. Cela fait des mois que plusieurs personnalités politiques sont soupçonnées d'avoir obtenu des titres universitaires grâce à des traitements de faveur. Cristina Cifuentes, l'ex-présidente de la région de Madrid, a été la première à en faire les frais au printemps dernier, contrainte de démissionner après plusieurs semaines de polémique. Hier, la ministre de la Santé, Carmen Montón, a elle aussi été rattrapée par ce scandale de diplômes douteux. Et curieusement, c'est toujours la même université publique madrilène qui est en cause, l'université Rey Juan Carlos. Pourtant, jusqu'au bout, Carmen Montón a été soutenue par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Il n'a d'ailleurs pas hésité à la défendre hier après-midi devant les sénateurs espagnols. Mais face aux terribles révélations de la chaîne de télévision La Sexta faisant état de possible plagiat dans le mémoire de fin de master, la benjamine du gouvernement Sánchez a été contrainte, elle aussi, de démissionner. C'est un nouveau coup dur pour le nouvel exécutif espagnol. Formé il y a 4 mois, il a déjà dû faire face à 2 démissions fracassantes après celle de Maxim Huerta. L'ancien ministre de la Culture n'était resté qu'une semaine en poste après des révélations sur ses ennuis passés avec le fisc.
Marie-Hélène Ballestero, correspondante de France Culture à Madrid. Londres et Moscou continuent de s'accuser réciproquement de mensonges. C'est toujours l'affaire Skripal qui alimente cette brouille diplomatique. Vladimir Poutine affirme aujourd'hui que la Russie a identifié les hommes soupçonnés par Londres d'avoir empoisonné l'ancien espion Sergueï Skripal. Selon le président russe, ce sont des civils et ils n'ont rien fait de criminel. Le Royaume-Uni balaye ses déclarations, assurant que les 2 suspects sont des officiers du service de renseignement militaire russe. Le français et l'arabe, le rock et la musique orientale. À travers ses chansons, il créait des ponts entre l'Algérie où il était né et la France, son pays d'adoption. Rachid Taha est mort cette nuit d'une crise cardiaque. Il avait 59 ans. Al-Raya, que l'on entend, était l'une de ses chansons les plus populaires, mais Rachid Taha avait frappé les esprits dès les années 80 avec sa reprise de Douce France de Charles Trenet avec son groupe Carte de Séjour. En 2016, il avait reçu une victoire de la musique pour l'ensemble de sa carrière et il s'apprêtait à sortir un nouvel album. Rachid Taha était talentueux, original et généreux. C'était un artiste à la fois créatif et atypique, dit de lui l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, ajoutant « Il était l'esprit de cette France arc-en-ciel et tout ». Retour à la politique avec le plan prison présenté ce matin au Conseil des ministres. Nicole Belloubet entend réduire de 8000 le nombre de détenus d'ici 2022. Au 1er juillet, ils étaient 70 710 détenus dans les prisons françaises pour moins de 60 000 places. La garde des Sceaux confirme la construction de 7 000 places d'ici la fin du quinquennat, mais dans la foulée d'Emmanuel Macron, elle insiste également sur une nouvelle politique des peines pour ne pas faire de l'emprisonnement la seule réponse, surtout quand il est de courte durée. Elle entend donc développer les placements sous bracelet électronique et les travaux d'intérêt général, ainsi que d'autres dispositifs destinés à mieux accompagner les détenus vers la sortie. Nicole Belloubet a d'ailleurs visité cet après-midi le quartier pour peine aménagée de Villejuif. Bonsoir Florence Thurme.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendue dans un autre QPA, celui de Metz, créé en 2003, c'est le plus ancien. Il accueille actuellement une 40aine de détenus, parmi lesquels Karim, que vous avez rencontré.
Ça nous permet de sortir, de rechercher des emplois, de soigner s'il y en a qui ont des problèmes, de voir nos familles. Personnellement, j'ai des enfants. Je sais que ici, je peux les voir les week-ends quand j'ai permission. On a 2 week-ends où on peut sortir. Une permission de 10 heures et une permission de 36 heures. Je sais que je serai en détention, je n'aurai pas de visite. Donc mes enfants ne me verraient plus. Je préfère que mes enfants ne viennent pas en détention me voir, connaître un parloir, connaître la prison. Je préfère leur dire que je suis au travail et pas être en détention. Et ici, on a le temps de prendre conscience pourquoi on est là, pourquoi on fait notre peine. Mais ici, on n'a pas le droit à l'erreur. La moindre erreur, c'est tout de suite la fourgon qui va vous chercher, vous allez à Queuleu.
Queuleu, c'est la maison d'arrêt de Metz et les détenus font la différence entre les cellules occupées par 2 prisonniers et les chambres individuelles dont ils peuvent sortir avec un badge. Ici, tout est centré sur la réinsertion sociale avec des missions en intérim, un accès aux soins, des activités sportives ou bénévoles. Pour autant, Renaud Lacombre, le directeur du centre pénitentiaire, ne sous-estime pas la difficulté de la tâche.
Le processus de désistance est très complexe et pas toujours évident à appréhender. La population qui vient ici au QPA connaît aussi des échecs. On a des mesures qui s'achèvent avec des réintégrations en maison d'arrêt parce que le détenu ne se plie pas aux règles de vie, commet des incidents ou se comporte mal. Mais globalement, les parcours sont souvent des succès ou en tout cas, la sortie se réalise comme c'était prévu dans le projet initial.
Antoine Michaud faisait partie du groupe de travail qui a débouché sur la création du QPA en 2003 dans les locaux de l'ancienne prison. Aujourd'hui directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il estime que l'esprit de départ a été respecté.
Maintenant, on réfléchit encore sur des évolutions par rapport à l'accès au téléphone portable pour faciliter aussi la prise de contact avec les emplois, avec les employeurs. Dans la mesure où ils sont dans une dynamique de réinsertion, il n'y a plus d'aspect sécuritaire qui prédomine. C'est vraiment la préparation à la sortie qui nous habite. Et dans un second temps, les personnes vont sortir dehors. Et là, on fera vraiment de la réinsertion, pas d'une manière théorique et éthérée, comme en milieu fermé où on est décalé, mais vraiment de la réinsertion grandeur nature dans la vraie vie. Et ça, c'est la richesse d'un établissement comme ça qui est au centre-ville et qui est vraiment implanté dans la cité. Donc c'est vraiment dedans, dehors. Et là, c'est pas un mythe, c'est une réalité.
Il existe actuellement 9 quartiers pour peine aménagée en France. Les nouvelles structures ne porteront plus le même nom. La chancellerie préfère parler de SAS avec la promesse de 2000 places supplémentaires d'ici 2022.
Florence Thuombe, de retour du quartier pour peine aménagée de Metz. Et demain, c'est le plan pauvreté que l'on attend. En amont des annonces gouvernementales, nous avons choisi de nous intéresser à une proposition qui ne fera pas partie des mesures présentées. Le revenu de base ou revenu universel proposé par Benoît Hamon, il avait fait beaucoup parler de lui pendant la campagne présidentielle. Eh bien, l'idée n'est pas morte, elle évolue et 13 départements demandent à pouvoir l'expérimenter quand certaines initiatives citoyennes font du lobbying sur la question, Annabelle Grelier.
On a tout dit sur le revenu de base, utopie, danger ou encore assistanat, et il en existe plusieurs versions. La version hamoniste est un revenu universel, la version libérale serait une refonte des aides sociales. La version portée par un collectif de 13 départements, elle, est encore différente. Jean-Luc Glaise, président du Conseil général de la Gironde, pionnier de la démarche.
Ce serait un revenu qui ne serait pas forcément universel, c'est-à-dire pas versé à tout le monde, qui serait inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de conditions imposées de démarches d'insertion, etc. Et qui serait dégressif, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir un montant différencié en fonction du revenu perçu dans l'immédiat par la personne. C'est aussi un revenu de base qui ne s'oppose pas à la valeur travail.
S'appuyant sur un rapport de l'Institut des politiques publiques, 2 scénarios ont été retenus. Ce revenu de base serait attribué sans démarche, il pourrait se cumuler avec l'allocation logement, il se monterait de 530 à 720 euros pour un célibataire sans enfant, dès l'âge de 18 ou 21 ans. L'enveloppe pour l'expérimenter s'élèverait de 2 800 000 euros à 7 500 000 euros par an pour 20 000 personnes. Mais selon Jean-Luc Glaise, cela vaut le coup.
Il pourrait être important parce que nos personnels sociaux traduisent la nécessité de travailler plutôt sur les dimensions positives de la réinsertion plutôt que sur des logiques simplement de contrôle. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui sans activité et qui ont besoin effectivement d'être accompagnées et rassurées au quotidien. Donc je pense qu'un ensemble de situations de Girondines, de Girondins correspondrait à un revenu de base qui pourrait être beaucoup plus positif que ne l'est le RSA aujourd'hui.
Julien Bayou, élu Europe Écologie Les Verts à la région d'Île-de-France, s'est lancé lui aussi dans la promotion du revenu de base en s'inspirant d'une initiative allemande de crowdfunding qui récolte des fonds permettant de verser 1000 euros tous les mois pendant un an à un bénéficiaire tiré au sort. Ils sont aujourd'hui 5 à le percevoir. Julien Bayou.
Nous, le travail qu'on fait avec mon revenu de base, c'est finalement un travail sous les radars. C'est-à-dire que en donnant à voir qu'est-ce que c'est qu'un revenu de base, même si c'est 1000 euros et même si c'est que pendant un an, finalement, on amène les gens à se projeter. Ce qui n'est pas possible avec le débat théorique sur le financement, sur est-ce que c'est revenu de base ou revenu universel, ou comment on organise la tuyauterie, etc. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais quand on vous dit qu'est-ce que vous feriez avec 1000 euros par mois, là, on voit que les gens s'arrêtent et puis se disent, bah oui, bah tiens, je prendrai plus soin de moi, ou je démarrerai une boîte, etc., etc.
Dans son plan pauvreté, Emmanuel Macron ne devrait nullement évoquer le revenu de base. Pourtant, Julien Bayou estime que si le RSA déjà devenait automatique, ce serait un premier pas.
La marche vers le revenu de base, elle commence par le RSA automatique. En fait, aujourd'hui, il y a trop de gens qui devraient toucher le RSA, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ressources, mais qui ne le touchent pas, qui ne le reçoivent pas, qui ne le demandent pas, pour plein de raisons psychologiques, des raisons parce que c'est complexe, etc. Parce que c'est aussi très invasif, une notion de contrôle. Ce système ne fonctionne pas et les 18-25 ans en sont exclus. Et donc, de fait, aller vers le RSA automatique, le rendre individuel et l'étendre aux 18-25 ans, c'est la première marche vers le revenu universel.
En attendant, 13 départements, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, présenteront un pré-projet de loi à l'automne afin d'expérimenter le revenu de base.
Annabelle Grelier. Programme chargé à l'Assemblée pour la rentrée parlementaire. Les questions au gouvernement, l'examen du projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation et entre les deux, le vote pour désigner le nouveau président de l'Assemblée. Vote qui s'est déroulé cet après-midi à bulletin secret. Stéphane Robert, vous êtes à l'Assemblée. Le dépouillement est toujours en cours. Les résultats ne sont pas encore proclamés.
Non, oui, on est encore en suspension de séance ici, puisque les députés ont voté, hein, et le scrutin est en train d'être dépouillé. On aura les résultats d'ici quelques minutes, 18h20, 18h30, c'est annoncé. Il n'y aura pas de surprise, hein, ceci dit, ce sera Richard Ferrand qui sera élu, puisqu'il y a 312 députés La République En Marche, et donc ils vont désigner Richard Ferrand. La seule question, c'est est-ce qu'il y aura des non-alignés, puisque on sait qu'il ne fait pas l'unanimité, Richard Ferrand. Certains regrettent, même au sein de La République En Marche, que ce soit lui qui était désigné. Donc, combien d'abstentions, combien de non-alignés? Autre question également, est-ce que le Modem, puisque le Modem a décidé de présenter un candidat, Marc Fesneau, est-ce que le Modem va faire le plein des voix de son groupe? Est-ce qu'il y aura plus de voix que les 46 députés Modem qui se porteront sur son nom? Et puis dernière question, est-ce que Ferrand sera un bon président de l'Assemblée? Alors ça, c'est évidemment l'avenir qui le dira. Mais il part quand même avec plusieurs handicaps. C'est un homme qui fait de la politique depuis 30 ans, donc il incarne plutôt le vieux monde. Et puis, deuxièmement, tout le monde est bien conscient qu'il est élu parce que c'est un proche d'Emmanuel Macron. Se posera dès lors toujours la question de son indépendance. On se demandera toujours s'il œuvre pour le bon fonctionnement du Parlement ou s'il est aux ordres de l'exécutif et du président de la République.
Richard Ferrand sera donc désigné d'ici quelques minutes. Merci Stéphane Robert en direct de l'Assemblée nationale avec Jean-André Giannichini à la technique. Les fonctions d'Alexandre Benalla à l'Élysée, au cœur des auditions de la commission d'enquête sénatoriale ce matin. Elle a tenté de comprendre notamment le rôle de l'ex-chargé de mission dans la sécurité d'Emmanuel Macron. Trois personnes ont été entendues ce matin, dont le chef de cabinet du président de la République, François-Xavier Lauche. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Vous avez assisté à ces audiences, les sénateurs sont restés sur leur faim.
Effectivement, il n'y a pas eu de révélation de la part de François-Xavier Lauche. Le chef de cabinet d'Emmanuel Macron a simplement tenté de minimiser le rôle d'Alexandre Benalla, laissant sur sa faim le rapporteur socialiste de la commission d'enquête, Jean-Pierre Sueur.
On a toujours une certaine rhétorique chez certains intervenants sur le thème « Monsieur Benalla était un organisateur de voyage ». Il n'exerçait pas de mission de police, de sécurité. Quelquefois, c'est un peu difficile de croire tout cela parce qu'on a beaucoup de témoignages, beaucoup de faits qui sont apportés au fil des auditions, au fil des éléments que nous trouvons. Donc nous continuons, notre rôle est simple, trouver la vérité. S'il reste des contradictions, nous le dirons.
Des contradictions par exemple entre le rôle que François-Xavier Lauche dit avoir attribué à Alexandre Benalla et les faits relevés par Philippe Bas, président de la commission d'enquête du Sénat, Les Républicains.
Il nous faudra encore lever les contradictions qui subsistent entre la mission de M. Benalla telle qu'elle est décrite et le fait que le préfet de police lui a attribué un permis de port d'armes qui suppose qu'il avait une mission de protection rapprochée très directe, ce qui d'ailleurs conforme à beaucoup d'images que l'on voit où il est manifestement dans une action de protection rapprochée.
Alexandre Benalla a été mis en examen pour des violences contre un manifestant alors qu'il était censé n'être qu'un simple observateur sur les opérations de maintien de l'ordre. Il a fini par accepter d'être prochainement entendu par la commission. Cette audition très attendue devrait avoir lieu la semaine prochaine.
Antoine Maret. Et avant de conclure ce journal, on part vers le futur avec Hakim Kasmi. Les trains drones, c'est pour 2021. Des trains de fret commandés à distance. La SNCF envisage aussi de faire circuler des prototypes de trains de voyageurs entièrement automatisés d'ici 2023. Bonsoir Hakim.
Bonsoir Aurélie.
Le train autonome, le train sans conducteur, est présenté par la direction de la SNCF comme un progrès majeur.
Et oui, ce n'est plus de la science-fiction. Alors pour l'instant, il y aura toujours un conducteur à bord dans les premiers temps pour surveiller les opérations, mais grâce au pilotage automatique, la SNCF pourra faire rouler plus de trains, 20 à 30% de plus, et donc proposer plus de places, notamment sur les nœuds ferroviaires les plus congestionnés, à commencer par le prolongement de la ligne E à Paris, qui sera automatisée en 2023, ou encore par la ligne TGV Paris-Lyon, qui à partir de 2024 pourra faire circuler 16 trains contre 13 actuellement. Guillaume Pepy, le PDG de la SNCF.
Si chaque automobiliste recevait à chaque seconde une indication sur la vitesse exacte qu'il devrait avoir, il n'y aurait plus ces ralentissements et ces accélérations quand l'autoroute est bien embouteillée. Et c'est la même chose pour les trains. Sans dépenser un euro de supplémentaire, on peut avoir des trains 30% plus nombreux sur la même ligne. Étant donné qu'une ligne à grande vitesse, ça coûte entre 5 et 10 milliards d'euros, vous voyez bien qu'on va améliorer l'efficacité du train.
Une automatisation qui coûtera tout de même plusieurs centaines de millions d'euros pour équiper les rames et le réseau. Quant au métier de conducteur ou encore de mécanicien, il risque d'évoluer. Mais pas question de parler de suppression de postes pour l'instant, selon la SNCF. Pas sûr que l'ensemble des partenaires sociaux l'entendent de cette oreille.
Hakim Kasmi, demain jeudi, le ciel sera souvent nuageux. Météo France prévoit des averses orageuses sur les Vosges, les Alpes et la Corse. Mais ailleurs, le temps sera sec et il y aura de belles éclaircies dans le sud. Il fera de 12 à 22 degrés demain matin, 18 à 28 l'après-midi, jusqu'à 33 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.